raconter comment on raconte ça, c'est-à-dire de voir les problèmes que pose l'expression médiatique de cette histoire, sachant que pour les journalistes qui y vont, c'est très dangereux parce qu'il faut passer par la Turquie du côté rebelle
ou le Liban.
Ou alors, c'est les quelques journalistes qui ont les autorisations officielles du régime et qui donc ne peuvent que raconter, dans un cas que dans l'autre, qu'une version biaisée et parcellaire de la réalité syrienne, alors même que ça devient de plus en plus un enjeu pour les chancelleries occidentales. Qu'est-ce qu'on fait pour aider la Syrie ? Marc Demiam.
Les journalistes, effectivement, qui vont sur place et qui passent par les filières de la rébellion sont susceptibles d'être intoxiqués par cette rébellion puisque... Ils veulent, en tout cas pour ce qui concerne le Conseil national syrien, ses relais sur le terrain, l'armée syrienne libre, ils savent très bien, comme ils n'ont pas l'avantage sur le terrain militaire, ils ne peuvent renverser ce régime qu'avec une intervention étrangère. Donc la tentation est forte de reproduire ce qui s'est passé en Libye. Pour déclencher cette intervention, il faut effectivement que les opinions publiques occidentales pèse sur leurs dirigeants, et pour cela, il faut que Bachar el-Assad, effectivement, utilise ses armes chimiques contre la population, par exemple, ou alors qu'avec son aviation, il bombarde les civils, etc.
C'est la même surenchère qu'on a dans chaque conflit armé, où il est difficile d'avoir des informations recoupées, une surenchère dans les annonces d'un côté comme de l'autre. Vous parlez de la Libye, au début, Bernard-Henri Lévy, par exemple, avait parlé au début de la guerre en Libye, de frappes d'hélicoptères sur les manifestants de la population dans les faubourgs de Tripoli, ce qui n'était pas vrai, par exemple.
Effectivement, l'attaque de l'aviation de Kadhafi sur les manifestants était une invention de... On ne sait plus très bien qui l'a inventé au départ, mais l'AFP l'a relayé, par exemple, à l'époque.
Al Jazeera aussi l'a relayé, tout en reconnaissant a posteriori que, finalement, ils n'y croyaient pas trop, mais que, finalement, ils l'avaient quand même relayé, quoi. Donc, ce qui pose la question de la neutralité des médias. Mais dans une guerre civile, comme dans n'importe quel conflit, on sait qu'il va y avoir une manipulation médiatique. On est dans un monde qui est hyper connecté, avec l'explosion des réseaux sociaux, avec Twitter, avec Facebook. On sait très bien qu'entre le moment où il se passe quelque chose et le moment où le monde entier le sait, il y a quelques secondes, c'est pas plus. Nous, ce qui nous a vraiment interrogés, c'est le manque de recul des journalistes par rapport à ça, quoi. Par exemple, moi, je travaille en radio et je présente beaucoup de journaux. Europe 1, beaucoup. J'ai travaillé de temps en temps à BFM, voilà, des choses comme ça. La question, c'est que quand vous êtes en bout de chaîne, ce qui est exactement mon cas, et que vous voyez arriver jour après jour des dépêches qui sont contradictoires, pas sourcées ou ostensiblement fausses, mais ça, au bout d'un moment, vous dites, mais il y a des choses qui sont pas possibles. Le point de départ, c'est ça. Grosso modo, le schéma actuel, c'est il y a de gentils rebelles avec des armes légères et qui n'ont que leur courage pour affronter une armée sanguinaire à la solde de Bachar el-Assad, appuyée par les fameuses milices, les Chabiyas, qui massacrent du civil à outrance.
Alors, vous parliez de simplification à outrance. Au départ, on s'est beaucoup intéressé aux principales pourvoyeurs de dépêches des trois principales agences de presse, l'AFP, AP et Reuters, qui est l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Bon. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, ça fait un moment que je m'intéresse à cet organisme. Il est très mystérieux. Son fondateur est un parfait inconnu en Syrie. Il est tout seul avec un simple secrétaire. Ses correspondants sur le terrain ne se connaissent pas entre eux pour des raisons de sécurité. Donc, par définition, les informations qu'il donne sont invérifiables. Et bon, ça s'appelle l'Observatoire syrien des droits de l'homme, mais c'est clairement un organisme qui s'intéresse aux violations des droits de l'homme commises par le régime. Et on est très, très, très étonné de la légèreté, entre guillemets, des agences de presse qui relaient cet organisme, dont on ne sait quasiment rien, sans jamais les vérifier, sans même être en position de pouvoir les vérifier, puisque, évidemment, l'AFP ne fait plus fonctionner son bureau de Damas pour des raisons de sécurité. En gros, ils ne peuvent pas travailler là-bas. Hein. De toute façon, est-ce qu'on peut travailler dans un pays aujourd'hui comme la Syrie ? C'est la question de fond de cet article.
Oui, Antonin Madoff.
Au-delà de ça, c'est que la réponse de l'AFP, c'est de dire, par exemple, c'est l'organisme qui raconte le moins de bêtises.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les groupes d'opposition syriens ont tendance à jouer une surenchère. On parlait tout à l'heure de Bernard-Henri Lévy. Bon, nous, on raconte dans notre article que dès le mois de septembre de 2011, bon, dans un appel vibrant à une intervention de l'OTAN Il rappelait l'utilisation de gaz toxiques lâchés par des hélicoptères, je crois que c'était vers Homs ou Rastan. C'est une accusation récurrente des rebelles. Comment dire ? Bon, l'AFP, par exemple, a essayé d'enquêter un peu